Bon vendredi à tous, 3 août 2018. Soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis avec vous. Et c'est Maurice Bolduc qui est là pour la mise en onde, les choix musicaux et les éphémérides. Ça va,
oui,
Maurice?
Bonjour, oui, vous-même.
Oui, 3 août. Est-ce que vous croyez à ça, vous, l'adage, le 3 fait le mois?
Ouais, le 3 fait le mois, le 5 le défait. Bon, on se rend jusqu'au 7-8, je pense.
On se rend mais compte si que le 3 fait le mois, il sera gris chaud. Et chaud.
Ah, je ne sais pas s'il va être gris, mais il va être chaud.
Mais aujourd'hui, c'est gris.
Uh-huh.
Si le 3 fait le mois, mais le 5 le défait, le 5, je ne sais pas ce qu'on annonce. C'est dans deux jours, ça, ouais. Samedi, dimanche. Oui, on annonce du soleil, donc.
Je sais pas du tout.
Si moi, le 5 le défait, ça veut dire que où sera ensoleillé?
On verra. Parce que moi, la météo, c'est au matin, au jour le jour. Tu sais, je ne prévois pas dans trois jours quel temps il fera.
Maurice le bohème.
Ouais, s'il pleut, on sortira le parapluie.
Namasté.
Ouais.
On vous écoute.
Donc, 3 août 2007, le CRTC déréglemente la téléphonie locale à Montréal, Québec, Toronto et d'autres grandes villes. En 2005, le premier ministre Paul Martin désigne la journaliste Michaëlle Jean pour succéder à Adrienne Clarkson comme gouverneur général. 1981, aux États-Unis, 13 000 contrôleurs aériens amorcent la grève. La plupart seront licenciés par le président de l'époque, Ronald Reagan. 1961, à Ottawa, le Commonwealth Cooperation Foundation devient le NPD. Tommy Douglas en est élu le chef. 1960, on souligne l'indépendance du Niger face à la France. En 1936, l'Américain Jesse Owen gagne la première des quatre médailles d'or en athlétisme aux Jeux olympiques de Berlin. Ce qui choquera un peu Hitler à l'époque, tant mieux. En 1858, l'explorateur anglais John Speke, S-P-E-K-E, Speke, atteint le lac Victoria, la source du Nil. 1778, c'est l'ouverture de la Scala de Milan, qui est quand même toujours ouverte. C'est quand même impressionnant. Nous autres, on fait des salles, au bout de 20 ans, on les ferme. 17, ça fait au-dessus de 200 ans quand même, là, de 230 ans, quelque chose du genre. En 1610, le navigateur Henry Hudson entre dans la baie qui portera son nom. En 1492, Christophe Colomb quitte Palos de la Frontera en Espagne avec ses trois navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, et vogue vers l'ouest en espérant découvrir l'Inde. Mais il a découvert autre chose.
C'est pour ça qu'il a appelé le maïs blé d'Inde. Il se pensait en Inde.
Peut-être, c'est ça. C'est très possible. Oui, c'est très logique. En 1347, après 11 mois de siège, c'est la prise de Calais par les Anglais, ce qui met fin au combat de la guerre de 100 ans. Quand même assez long. Quelques naissances. Habib Bourguiba, qui est le père de l'indépendance de la Tunisie qui en sera son premier président. Il est né en 1903, lui nous a quitté en 2000, donc mais mort très vieux. Un autre vénérable, né en 1926, Tony Bennett, chanteur américain qui roule encore sa bosse même aujourd'hui.
Oui, quel âge?
1926, donc ça lui donne 92 ans.
Wow! Ouais. Bon anniversaire, ouais. Tony. C'est pas son vrai... son nom complet, est-ce que vous l'avez?
Il n'est pas écrit ici, non. J'ai pas fait la recherche. Bon. En 1939, Pierre-Yves Brault, compositeur québécois, naissait. Il nous a quittés en 2014. Et en 1941, l'animatrice de télévision et femme d'affaires américaine, on pourrait en rajouter, mais je le ferai pas, Martha Stewart, naissait. En 2004, du côté des décès, le photographe français Henri Cartier-Besson, qui a marqué une époque.
Ah oui, les photos noir et blanc, le baiser.
Entre autres, oui. Lui était né en 1909, donc c'est la journée des vénérables. Aujourd'hui, il est mort en 95 ans.
Mm-hmm.
La romancière Colette, elle, nous quittait en 1954. Elle était née en 1873. Et ça fait le tour de ce 3 août 2018.
Tony Bennett, Anthony Dominique Benedetto. Merci, Maurice.
Oui, c'est moins long, Tony Bennett.
Oui. Cartier-Bresson, je ne suis pas sûre que c'est lui qui a fait la fameuse photo avec le baiser, mais je sais qu'il a fait des photos en noir et blanc. À vérifier. Alors donc, à la une de la presse plus Montréal-Nord, 10 ans après Vella Nueva, une main tendue, deux patrouilleurs du SPVM ont rebâti les ponts avec une communauté amère et méfiante. pas à pas, il raconte. Alors, c'est pas Villanueva, mais Villanueva. La retraite après 430 exécutions. Métier journaliste, spécialité peine de mort. Il s'agit d'un journaliste qui a travaillé à l'Associated Press. La chronique de Marie-Claude Lortie, VG obligé. Sport, Johnny Manziel, ça passe ou ça casse? C'était en une de la presse hier. Disparu après avoir été abandonné en pleine nuit par des policiers, Maina Akuliak a été retrouvée saine et sauve hier à Montréal. La disparition pendant 5 jours de Maina Akuliak, une patiente inuite vulnérable laissée à la sortie d'un poste de police en pleine nuit, doit servir de sonnette d'alarme pour le SPVM, a affirmé hier la mairesse de Montréal. Madame Akuliak a été retrouvée saine et sauve en plein milieu de la journée hier, a annoncé le SPVM. Elle a été localisée vers 11h55 au coin du boulevard Crémazie et de l'avenue Bloomfield, a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du service. Quelques minutes auparavant, en marge d'un point de presse, la mairesse de Montréal invitait sa police à réfléchir aux moyens de faire en sorte qu'une telle disparition ne se reproduise pas. Madame Akuliak a été reconnue par un policier en congé. Sa famille s'inquiétait pour la sécurité de Maina Akuliak. Elle ne connaît pas Montréal, elle n'a personne ici. Elle ne parle à peu près pas anglais et le comprend mal, avait expliqué la veille Paul Toukalouk, le conjoint de Madame Akuliak. Elle prenait beaucoup de médicaments pour une douleur intense au bras, a-t-il ajouté, ce qui pourrait la rendre plus vulnérable. Elle souffre des problèmes de dépendance. C'est triste, c'est inacceptable, avait affirmé la mairesse juste avant la bonne nouvelle. Selon Valérie Plante, la pratique qui consiste à fournir un billet d'autobus aux individus libérés d'un poste de police situé sur un boulevard industriel doit être revue. G7 de la Malbaie. Le nombre de policiers à pied d'œuvre à Québec et à la Malbaie durant le sommet du G7 était excessif et ce déploiement s'apparente à une entrave déraisonnable aux libertés d'expression et de réunion pacifique, conclut un rapport d'observateurs indépendants dévoilé hier. Les 8 et 9 juin, plus de 8000 policiers de la Ville de Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec étaient en poste dans le cadre du G7. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans la capitale, mais elles ont attiré beaucoup moins de participants que ne l'anticipaient les autorités. Lors de plusieurs manifestations, le nombre de policiers surpassait celui des manifestants. Les observateurs nommés par le ministère de la Sécurité publique notent que la mise en place d'un tel dispositif hyper sécuritaire est dissuasif. Le nombre important de policiers, en plus de la présence de mystérieuses caméras policières pointées sur les manifestants, a créé un climat malsain pour l'exercice du droit de manifester garanti par les chartes, estiment les observateurs. Les 3 observateurs indépendants ont été nommés par le ministère de la Sécurité publique. Il s'agit de Louis-Philippe Lampron et Christine Vizina, professeurs à la Faculté de droit de l'Université Laval, et Mario Bilodeau, ancien président du Comité de déontologie policière du Québec. Le ministre de la Sécurité publique a réagi dans un communiqué tenant tout d'abord à réitérer sa satisfaction à l'égard du travail policier effectué lors du sommet du G7. Marc Coiteux dit également que Québec tirera des leçons des événements, comme nous le faisons toujours. Quant aux recommandations, il promet de les examiner avec intérêt. $1 000 réclamés à Montréal pour dommages moraux. L'ex-conseillère municipale d'Outremont, Céline Forgette, réclame $1 000 à la Ville de Montréal pour les dommages moraux encourus après avoir été évincée d'une séance publique du conseil d'arrondissement le 5 mars dernier. Céline Forgette affirme qu'un agent de sécurité l'a expulsée de la séance publique du conseil d'arrondissement d'Outremont sans aucune raison, peu de temps avant le début de l'Assemblée. un geste agressif qui lui a causé des torts, écrit-elle dans sa demande de dédommagement adressée à la division des petites créances de la Cour du Québec. « J'ai été tendue et j'ai eu de la difficulté à dormir la nuit suivante. J'ai été humiliée et marquée par cet événement qui fut rendu public dans les médias. Je ressens du stress et de l'anxiété à chaque assemblée publique par crainte de subir de semblables agissements », indique Mme Forgette dans sa poursuite. En mars dernier, l'Express d'Outremont rapportait que le comédien Donald Pilon avait été mis à la porte du conseil d'arrondissement à la suite d'une altercation. Céline Forgette aurait accompagné l'acteur pour être témoin de la scène, mais aurait alors aussi été évincée. Les deux citoyens auraient demandé de réintégrer les lieux, ce qui leur aurait été refusé. Ces événements se sont déroulés le soir même où un groupe de citoyens portait un carré jaune pour protester contre l'affluence d'autobus scolaires juifs dans l'arrondissement. Le geste avait semé la controverse alors que plusieurs, dont des élus, estimaient que le carré jaune rappelait l'étoile de David que devaient porter les Juifs sous le régime nazi. Selon l'Express d'Outremont, M. Pilon arborait un carré jaune lorsqu'il a été conduit à l'extérieur. La poursuite de l'ex-conseillère ne fait pas état des circonstances entourant l'expulsion du comédien. La Ville de Montréal, qui a enregistré le 23 juillet sa contestation, maintient qu'elle n'est pas responsable des comportements de Mme Forgette. Des milliers de personnes ont participé hier à Jérusalem à la 17e édition de la Fierté gay dans la Ville Sainte. La marche pour la fierté et la tolérance s'est déroulée sous haute surveillance et dans un contexte particulièrement tendu cette année. La police israélienne a indiqué que près de 10 000 personnes étaient sur place au début de la marche, partie d'un parc du centre-ville. Quelques dizaines de manifestants étaient rassemblés pour protester contre cette marche de la fierté gay, arborant une bannière sur laquelle on pouvait lire en hébreu interdiction d'entrée de cette abomination dans la Ville Sainte. La police les a maintenus à l'écart des marcheurs. Le centre de Jérusalem était fermé à la circulation et les participants étaient fouillés. Le spectre du meurtre d'une adolescente de 16 ans poignardée à mort par un juif ultra-orthodoxe lors de l'édition de 2015 restant très présent dans les esprits. Le contexte était aussi particulièrement tendu cette année après que des milliers d'Israéliens ont manifesté le 22 juillet contre une loi excluant les couples de même sexe du droit à recourir à la gestation pour autrui. Israël est considéré comme un pays pionnier au Moyen-Orient en termes de droits des gays et lesbiennes, mais l'homosexualité demeure un tabou dans les milieux religieux, très influent au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou, considéré comme le plus à droite de l'histoire de l'État hébreu. Et pour terminer, l'information est donnée au compte-gouttes pour les clients inquiets de l'agence de voyage sous tutelle Sinorama. La presse a néanmoins pu se faire se confirmer hier en fin de journée par l'administrateur provisoire que les départs prévus en août allaient être honorés. Pour les voyages à destination de l'Asie, l'information concerne un millier de clients, dis-je bien. Tous les départs du mois d'août vont être confirmés dans les prochains jours, a assuré Christian Bourque, associé de PricewaterhouseCoopers, administrateur provisoire de l'agence Sinorama, qui a été nommé par l'Office de la protection du consommateur, OPC. Il y a un seul départ le 6 août, les autres sont plus tard dans le mois, indique-t-il. Ce n'est pas la haute saison en Asie, ça commence davantage en septembre. Jusqu'à maintenant, seuls les départs jusqu'au 5 août avaient été confirmés. L'agence qui employait la populaire comédienne Guylaine Tremblay comme porte-parole a été placée sous tutelle parce qu'elle ne gérait pas l'argent de ses clients selon les règles de l'art. Mme Tremblay a rompu ses liens avec Sinorama après la mise sous tutelle le 24 juillet. Aujourd'hui, le 3 août est la date limite pour les dirigeants de Sinorama s'ils souhaitent convaincre l'OPC de renouveler son permis d'agence.
Quand revient la chaleur de l'été, je me sens attiré par tes tes yeux qui me promettent encore des baisers sur le corps. J'ai jeté mes regrets dans le feu, attisé amoureux. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Je préfère m'en aller loin d'ici, dans les bras d'un amour qui fera ressurgir ces instants de bonheur que j'avais dans le cœur. Je sens venir le vent de l'automne, silencieux et monotone. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Je préfère m'en aller loin d'ici, dans les bras d'un amour qui fera ressurgir ces instants de bonheur que j'avais dans le cœur. Je sens venir le vent de l'automne, silencieux et monotone. Voudrais-tu me retrouver un jour au détour de l'amour? Tu me retrouver un jour au détour de l'amour.
Danny Briand et Rock Voisine nous chantaient « Se retrouver un jour ».
Et oui, Maurice, dans les éphémérides, vous parliez de Henri Cartier-Bresson. Et moi, je vous disais, oui, le photographe du baiser, entre autres, c'est l'œuvre Le baiser de l'Hôtel de Ville. Et j'étais pas certaine de ce que j'avançais. Et j'étais justement dans le champ, si vous me permettez l'expression, parce que ce n'est pas Henri Cartier-Bresson qui a croqué cette photo qui a fait le tour du monde, mais bien Robert Doisneau. À la une du Devoir, pétrole, Junex passe à des intérêts albertains. L'entreprise contrôlera 8200 km² de permis d'exploration au Québec. Un sommet de sécurité au G7, un rapport critique sévèrement les mesures mises en place à Québec comme à la baie, à la Malbaie. Une photo qui nous montre la présence policière lors du sommet du G7 qui a été excessive, selon un comité de surveillance mis sur pied par le ministre de la Sécurité publique. La musique à corps perdu, un article de North City sur une diète pré-Oshiaga fait débat sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on écoute mieux de la musique quand on est mince? Je ne crois pas, lâche d'un ton agacé. La chroniqueuse Manal Drissi, encore abasourdie par l'article publié lundi. Économie, Apple vaut plus de 1000 milliards en bourse. M. Mnangagwa, élu à la présidence du Zimbabwe. La chronique de José Blanchette, Zeitgeist, bain de forêt ou la thérapie sylvicole. Après l'entreprise québécoise Petrolia, c'est maintenant au tour de Junex de passer aux mains d'une pétrolière albertaine. Les projets d'hydrocarbures les plus avancés au Québec seront donc tous dirigés par des intérêts financiers de l'Ouest canadien qui contrôleront par la même occasion des milliers de kilomètres carrés de permis d'exploration dans la province. Dans le cadre d'une assemblée extraordinaire tenue jeudi, les actionnaires de Junex qui ont exercé leur droit de vote se sont exprimés à 98,9% en faveur du regroupement avec la pétrolière Cuda Energy de Calgary. Il n'a toutefois pas été possible de savoir si Investissement Québec, qui détient près de 15% des actions de Junex, a voté pour ce regroupement stratégique qui avait été recommandé par la direction de l'entreprise québécoise d'exploration pétrolière et gazière. La société d'État qui a injecté plusieurs millions de dollars dans les projets de Junex n'a pas voulu commenter la décision des actionnaires. La nouvelle entreprise, qui sera dirigée par des intérêts albertains, se nommera Cuda Oil and Gas. Les parents d'élèves de 68 commissions scolaires du Québec se partageront dès le printemps une enveloppe de 153 millions de dollars, fruit d'un accord sur les frais exigés pour l'achat de fournitures scolaires. Une action collective de 300 millions, entreprise contre les commissions scolaires en 2013 par une mère saguenéenne, Daisy Marcille, s'est conclue le 30 juillet par l'approbation d'une entente à l'amiable. En vertu de celle-ci, 68 des 72 commissions scolaires du Québec devront débourser 24 $ par élève par année scolaire à partir de 2009-2010. Les indemnisations de quelques commissions scolaires seront calculées à partir de 2008-2009. En tout, pas moins de 720 000 élèves fréquentant 2240 écoles secondaires et primaires sont touchés par l'accord. Les parents de ces élèves n'ont pas à formuler de demande de réclamation. Sur la base d'une distribution automatique, ils recevront au printemps un chèque par la poste. Rien ne sert cependant d'espérer un remboursement pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. L'entente stipule que le supplément non imposable de 100 $ par enfant pour l'achat de fournitures scolaires, annoncé par Québec en novembre 2017, permet de compenser les dépenses pour ces deux années-là. Bloc québécois, le congrès du 18 août sera déterminant. Des exécutifs de circonscription de députés démissionnaires ont choisi le Bloc et espèrent que les élus feront de même. Les députés démissionnaires du Bloc québécois perdent des appuis au sein même de leurs exécutifs de circonscription. Deux autres associations locales se montrent tièdes devant le virage de leurs députés vers le nouveau Parti Québec debout. Toutes deux confirment au devoir qu'elles restent fidèles au Bloc et que leur élu se retrouve ainsi orphelin. Dans le lot, le chef intérimaire des démissionnaires bloquistes, Réal Fortin. M. Fortin n'a pas d'exécutif, tranche Louis-David Bénard, le président de l'association bloquiste de Rivière-du-Nord, au sujet de son député. Réal Fortin et six de ses collègues avaient quitté le caucus du Bloc québécois avec fracas l'hiver dernier en rejetant le leadership de l'ancienne chef, Martine Ouellette. Nous, on reste au Bloc. Pour l'instant, on va travailler à la refondation et on va travailler à bâtir des ponts. Et l'objectif, ultimement, c'est de présenter un seul parti aux élections d'octobre 2019, fait valoir M. Bénard au devoir. On espère vraiment le retour de notre député au Bloc. Et on ne voit toujours pas la pertinence d'un Québec debout, indique le président Martin Lajeunesse, qui avait déjà exprimé des doutes en juin. Ça ne mènera nulle part, insiste-t-il. Il faut que tout le monde apprenne à mettre de l'eau dans son vin. Il faut y aller pour les intérêts du Québec. Et en ce moment, je ne crois pas qu'il y ait de la place pour deux partis qui se disent souverainistes. Le gouvernement du Parti progressiste conservateur de Doug Ford fait l'objet de critiques pour les manières agressives qu'il déploie envers les journalistes affectés à la couverture de la politique ontarienne. Adversaires politiques, membres de la presse et autres observateurs de l'industrie des médias s'entendent sur le fait que les stratégies d'entrave élaborées par le premier ministre et son cabinet dépassent largement le simple discours partisan auquel on s'attend dans tout environnement politique. Enterrer les questions des journalistes par des applaudissements d'employés payés et produire de la propagande gouvernementale déguisée en reportages indépendants, disent-ils, représente un détournement de fonds publics et une menace à la démocratie. Le Québec achemine des ressources en Ontario pour aider à combattre les incendies de forêt qui y sévissent. La pluie, reçue depuis quelques jours au Québec, a contribué à abaisser significativement les risques d'incendie, ce qui a permis à la Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU, de venir en aide à la province voisine. La SOPFEU a précisé que 38 pompiers forestiers et deux représentants d'agences du Québec allaient se rendre jeudi en Ontario. Ils seront déployés à Dryden et à Sudbury. Deux avions citernes se sont également envolés vers Sudbury mercredi. D'autre part, le Québec appuie aussi les efforts en Colombie-Britannique où deux appareils québécois seront utilisés à Williams Lake. Le pape François a inscrit dans le catéchisme de l'Église catholique une opposition catégorique à la peine de mort et souhaite désormais que l'Église s'engage de façon déterminée à l'abolir partout dans le monde. La version de 1992 du catéchisme de l'Église catholique n'exclut pas explicitement la peine capitale dans des cas extrêmes. L'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Peut-on lire dans la version française du texte modifié par le pape François? Dans la version italienne d'origine, le texte utilise l'expression « mesure inadmissible » à l'instar de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et du portugais. Seule la traduction française parle d'une mesure inhumaine. Le pape avait approuvé ces modifications au catéchisme le 11 mai lors d'une audience avec le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et trois alpinistes français d'une même cordée sont morts jeudi matin dans le secteur français des Dômes de Miage, à environ 3600 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Blanc.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Thank you.
Martha Wainwright, Take the Reins.
En une du Journal de Montréal, moins d'un an après l'inauguration du projet Bonaventure, déjà à refaire. Et Coupe Rogers, 10 joueuses qui feront le spectacle. Travaux à refaire à l'entrée Bonaventure. Moins d'un an après la fin des travaux, la nouvelle entrée de ville Bonaventure, construite au coût de 142 millions de dollars, est déjà à refaire en partie, a appris le journal. Depuis mardi, les clôtures, le son des marteaux-piqueurs et la poussière sont de retour à l'angle de la rue Wellington et du nouveau boulevard Robert-Bourassa. La place publique avec vue sur le centre-ville avait pourtant été inaugurée en grande pompe en septembre 2017 par l'ex-maire de Nicodère comme l'un des legs majeurs du 375e anniversaire de Montréal. Mais depuis le début de la semaine, moins d'un an après l'inauguration, des ouvriers s'affairent déjà à démolir certaines des dalles de béton flambant neuves coulées au pied de la statue afin de les reconstruire. Certaines dalles auraient été mal coulées ou mal installées lors des travaux d'origine, selon les informations obtenues par le journal. Dans certains cas, la structure métallique dans laquelle elles ont été coulées était trop surélevée. Avec l'usure, le métal et la rouille sont apparus à la surface du pavé. Dans d'autres cas, le béton s'est affaissé et causait des accumulations d'eau. La ville se contente de dire qu'elle a demandé à l'entrepreneur responsable, Excavation Loisel, de faire des travaux correctifs sur une déficience mineure au niveau de l'armature métallique sur certaines portions du pavé. Les rénovations devraient s'échelonner jusqu'au 13 août. La fille de Steve Jobs, fondateur d'Apple, racontera les détails de la relation difficile qu'elle a connue avec son défunt père dans un livre qui paraîtra en septembre sous le titre « Small Fry », menu fretin en français. Lisa Brennan Jobs, 40 ans, réglera aussi ses comptes avec son père multimilliardaire emporté par un cancer le 5 octobre 2011. L'ouvrage, publié le 4 septembre, reviendra notamment sur le fait que Steve Jobs a longtemps refusé de reconnaître sa paternité et qu'il a souvent été mesquin à son endroit. La mauvaise relation s'est même poursuivie jusque sur son lit de mort. Il lui aurait dit qu'elle sentait la toilette. Une fin de semaine de chaos sur l'échangeur Turco. La fermeture complète de l'autoroute 15 à la hauteur de l'échangeur Turco pendant la fin de semaine du retour des vacances de la construction risque de faire vivre l'enfer à de nombreux automobilistes. Les Montréalais sont déjà habitués depuis plusieurs semaines aux fermetures de voies et au trafic monstre que celles-ci engendrent dans cette zone. Mais un nouveau cap sera franchi en fin de semaine puisque l'autoroute 15 sera complètement fermée entre la sortie 64, rue Sherbrooke, rue Saint-Jacques, et l'échangeur Turco, et ce, dès aujourd'hui, 22h jusqu'à 5h. L'expert en circulation, Rick Lechner, craint que la situation ne soit particulièrement critique dimanche soir, alors que s'achèveront les vacances de la construction. « Avec les retours, cela peut être vraiment terrible, juge-t-il. Je prédis un engorgement monumental sur l'autoroute 40, car toutes les entrées pour l'autoroute 15 Sud seront fermées. » Interrogé sur le choix d'effectuer cette fermeture lors d'une fin de semaine qui coïncide aussi avec le début de la Coupe Rogers de tennis et du Festival de musique Oshiaga, le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, explique que des mesures ont été mises en place pour limiter les nuisances. Le MTQ a fait d'énormes efforts de communication et les automobilistes sont conscients que ce week-end, la circulation est perturbée dans l'axe des carrés, explique-t-il. Pour les gens qui vont aller à la Coupe Rogers, la STM, sur simple présentation du billet, offre le transport gratuitement. De manière générale, le message de la Ville est d'emprunter les transports en commun. Des fraudeurs sourient à leurs victimes en allant en prison. Les 5 accusés ont reçu leur sentence hier au palais de justice de Longueuil. « Elle a été arrogante jusqu'à la fin », a résumé Jean-Pierre Labelle en parlant de France-José Dancause, la tête dirigeante de la fraude pyramidale. L'homme a perdu 2,5 millions de dollars dans le stratagème financier qui a perduré de 2006 à 2013. Comme 80 autres personnes, donc, un autre homme aussi, Karkouti Souad, qui a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars, a dit « Elle nous regarde, la chef de l'organisation criminelle, comme si elle rit du système. » Alors, comme 80 autres personnes, ils se sont fait promettre des profits mirobolants s'ils investissaient dans un système de rachat de biens saisis par la Gendarmerie royale du Canada. Tout cela n'était que pure fiction. Les 5 accusés ont été reconnus coupables il y a 2 semaines de chefs allant du complot au gangstérisme en passant par la fraude et le recyclage des produits de la criminalité. Le procès devant jury a duré 6 mois. Alors, on a en photo France-José Dancause, 10 ans donc d'emprisonnement, Alain Péloquin, 8 ans, Sophie Jolicoeur, 3 ans, Chantal Goulet, 6 mois à domicile et Daniel Saint-Denis, 3 ans. Des vétérans veulent aussi leur plaque personnalisée. Des vétérans qui réclament depuis 10 ans une plaque automobile améliorée pour rendre hommage aux anciens combattants se sentent trahis par le gouvernement du Québec. Depuis 2008, un comité de vétérans des Forces armées canadiennes talonne le gouvernement afin que les plaques automobiles des vétérans soulignent de manière claire et distinctive la mémoire des combattants. Récemment, avec le lancement du nouveau programme de plaques personnalisées, le groupe a l'impression de s'être fait avoir. La ministre Véronique Tremblay n'a pas voulu commenter le dossier, demandant au Journal de Montréal de s'adresser au ministre des Transports André Fortin. Le cabinet du ministre a mentionné qu'il travaillait à l'organisation d'une rencontre avec le groupe de vétérans. Une résidente de Château-Richer, près de Québec, a eu la peur de sa vie quand un véhicule lourd a chuté d'un ravin pour ensuite s'écraser dans sa cuisine où elle se trouvait hier. « J'ai entendu un gros boum et toutes mes armoires de cuisine, toute la vaisselle m'est tombée dessus. Je me suis précipitée dans le salon. Toute la maison a tremblé », décrit Suzanne Drouin, 63 ans, près de son logement du 2e étage. Vers 11h50, le conducteur d'un camion qui transportait de la poussière de pierre a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie d'un virage qui passe tout juste derrière le duplex où elle réside depuis près de 4 ans. Le conducteur du véhicule, un homme dans la 60aine, a été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie, selon la SQ. Et pour terminer, Apple a marqué l'histoire de Wall Street hier en devenant la première entreprise privée au monde à franchir le cap des 1 000 milliards de dollars en bourse, une étape couronnant plusieurs décennies de produits qui ont révolutionné notre rapport à la technologie. Le groupe né dans un garage en 1976 fait désormais partie du quotidien. Ce succès se matérialise par des performances records trimestre après trimestre. En bourse, le titre s'envole. L'action Apple a atteint hier vers 15h50 GMT le prix de 207,05 $. À ce prix, la capitalisation boursière du groupe a atteint 1 milliards de dollars. C'est une première pour une société privée. L'entreprise publique PetroChina avait brièvement franchi ce seuil des 1 000 milliards de dollars en 2007 lors de son introduction en bourse, mais était vite redescendue.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil. Des fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, des vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, des vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombres parmi les ombres, des longs couteaux tirés. À deux doigts de l'Europe, qu'on a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sur le ciel minéral. Tu commences à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, des vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Bernard Lavillier, croisière méditerranéenne.
Les journaux régionaux dans le droit, Charles-Antoine Gagnon qui signe un texte intitulé « Vision bionique pour non-voyants ». Une entreprise d'Ottawa est à développer une technologie de vision bionique qui permettra de redonner une vue fonctionnelle artificielle aux non-voyants ayant perdu la vue en raison d'une maladie de la rétine. Technologie Eye ou eBionics, une compagnie d'Ottawa avec un bureau à l'Université du Québec en Outaouais, s'est vu accorder 438 400 $ du gouvernement du Québec pour soutenir la mise au point de sa solution de vision bionique à haute résolution. La technologie Diamond Eye. Je reprends. La technologie Diamond Eye MC consiste en une puce encapsulée dans un boîtier en diamant fixé à la rétine, ainsi que des lunettes spécialisées qui traiteront et enverront l'information visuelle à l'implant au moyen d'un laser. Le projet sera réalisé en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, Azastra Opto et le Centre universitaire d'ophtalmologie de l'Université de Montréal, Hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'entreprise a encore besoin de 10 millions pour mener le développement de sa technologie à terme pour terminer l'étape d'essai clinique et pour la commercialisation. Technologie eBionics ou iBionics espère que le tout sera prêt pour 2023-2024. Il existe déjà des technologies d'œil bionique qui permettent de distinguer des formes et des mouvements, mais eBionics affirme que sa solution accroîtra de manière beaucoup plus grande et utile la vision artificielle, permettant notamment au receveur de reconnaître une personne devant elle. La chirurgie se fait sous anesthésie locale et est beaucoup moins envahissante que ce qui se fait actuellement. Elle durera de 90 minutes jusqu'à environ une heure au lieu des 4,5 heures actuellement, a aussi expliqué Suzanne Grant, présidente et chef de la direction de technologie eBionics. Le financement de Québec permettra de mettre au point l'implant rétinal dans un support en silicone et le système de fixation à la rétine. L'argent du gouvernement provincial permettra aussi la mise au point des lunettes, la technique de chirurgie et des outils chirurgicaux adaptés. L'industrie des sciences de la vie fait partie du tissu industriel québécois depuis plus d'un siècle et représente l'un des secteurs les plus dynamiques et innovateurs de l'économie québécoise. Nos organisations multiplient les idées pour faire croître et rayonner davantage cet important secteur au moyen de projets avant-gardistes, comme celui de technologie eBionics, a indiqué dans un communiqué la députée de Gatineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Stéphanie Vallée. C'est à Sherbrooke qu'on effectuera les tests de conformité requis pour les essais cliniques et qu'on travaillera à l'optimisation du prototype, a pour sa part signalé le ministre de la Famille et député de Sherbrooke, Luc Fortin. Alors, dans le quotidien maintenant, Andréane Vallée, deux rhinocéros blancs au zoo de Falardeau. Est-ce que vous dites zoo ou zoo, vous, Maurice?
Zoo.
Zoo, d'accord, comme moi. Le zoo de Falardeau accueillera deux bébés rhinocéros blancs d'Afrique du Sud au plus tard, au printemps 2019. Le propriétaire de l'établissement, Daniel Gagnon, se dit très heureux de pouvoir compter sur de tels animaux. Les deux bébés de 1 an et de 2 ans ne pèsent pour l'instant que 500 livres chacun, mais ils atteindront les 2 tonnes une fois devenus adultes. Ils sont encore au biberon. Ils seront considérés comme matures quand ils auront atteint environ 4 ans, a expliqué le nouveau propriétaire. Les bêtes ont été rendues disponibles à l'achat après que leur mère ait été tuée dans une réserve de chasse. Selon M. Gagnon, c'est une destinée similaire qui attendait très probablement les petits. Les propriétaires ne voulaient pas nourrir les bébés au biberon. Ils ne savaient pas trop comment faire, explique-t-il. Pour l'instant, le sexe des bébés est toujours incertain. Selon ce qu'on m'a dit, c'est un mâle et une femelle, mais nous ne serons certains qu'une fois qu'on va les voir. Avant que les animaux passent par une quarantaine de 60 jours au Texas, aux États-Unis, les nouveaux propriétaires devront se procurer un permis afin de pouvoir faire transporter en avion les rhinocéros d'un pays à l'autre. Cela peut prendre jusqu'à 3 mois. Les deux rhinocéros seront par la suite transportés par camion jusqu'à leur nouvel habitat. Si ça va plus vite que normalement, je pourrai les avoir avant l'hiver prochain. Mais s'il fait trop froid à l'automne, je ne veux pas risquer quoi que ce soit et je vais attendre le printemps 2019. M. Gagnon préférait ne pas dévoiler le prix d'achat, mais a indiqué que la première proposition avait été beaucoup trop chère pour lui. Mais les vendeurs sont revenus à la charge avec une offre plus raisonnable en réduisant le prix de près de 50 %. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais l'espace et que sauver deux belles bêtes comme ça, ça n'avait pas de prix. Les responsables du zoo avaient d'ailleurs sondé la population sur leur page Facebook il y a environ une semaine. La plupart des commentaires sous la publication étaient en faveur de l'achat des bêtes. Certains suggéraient même de faire une collecte de fonds afin d'aider les propriétaires. Cela n'a finalement pas été nécessaire. Les deux rhinocéros auront droit à deux enclos, un pour l'hiver, l'autre pour l'été. Ce sont des êtres frileux, on va les garder au chaud, ajoute M. Gagnon. Les enclos se trouveront près de ceux des autres animaux de la savane africaine que le zoo possède déjà. Deux héros trifluviens. Tout comme bien des Québécois, les trifluviens Daniel et Alexandre Anctil ont partagé quelques jours de vacances ensemble à l'île du Prince-Édouard avec leur famille la semaine dernière. Jamais les deux frères ne se doutaient qu'ils sauveraient alors trois vies. Alexandre Anctil, aujourd'hui résident de Québec et informaticien à Revenu Québec, était en train de faire des châteaux de sable avec ses enfants au bord de la mer lorsqu'il aperçut deux fillettes assises sur un simple matelas gonflable dérivant dangereusement loin de la plage. Il ventait très fort vers le large et ses enfants jouaient avec des matelas gonflables, ce qui n'est pas une bonne idée dans ces conditions-là, raconte-t-il. Son frère, Daniel Anctil, un policier de la Sûreté publique de Trois-Rivières, aperçoit soudain son frère s'élancer à la nage en direction du large. Il y avait un groupe de matelas gonflables, dont un qui était vide. Sur l'un d'eux, il y avait deux personnes et sur l'autre, une personne, raconte-t-il. Cette autre personne, c'était la gardienne des deux enfants, apprendra-t-il plus tard. Avec tout ce vent qui entraîne de plus en plus les petits matelas gonflables vers le large, Alexandre comprend vite que les enfants sont en danger. Selon Daniel Anctil, les trois personnes étaient alors à environ 150 à 200 mètres de la plage. Et il y avait de la vague, précise son frère. C'est probablement pour cette raison qu'il n'y avait pas d'embarcation sur l'eau à ce moment-là. Selon un témoin de la scène, un touriste de Halifax, Steve Ashford, il n'y avait pas de gardien de plage non plus à cet endroit où se tenaient pourtant des dizaines de personnes. La veille, on a vu une tripe s'envoler au vent et elle roulait sur l'eau tellement qu'il ventait pour ensuite disparaître à l'horizon, raconte Alexandre Anctil. Il aurait donc fallu que ces trois personnes nagent pour revenir, mais elles restaient assises et ne faisaient rien. La femme essayait de les rejoindre sur un autre matelas, mais elle n'avançait pas beaucoup, a-t-il pu constater. Les deux frères ont appris par la suite de la bouche même de cette dame qu'elle était une piètre nageuse. Alexandre est donc allé rejoindre à la nage les deux fillettes qui, selon lui, devaient avoir respectivement 5 et 9 ans environ. La distance représentait environ 2 minutes de nage aller. Il a saisi le matelas des fillettes entre ses jambes et l'a remorqué vers la rive en nageant sur le dos. Alexandre n'a parlé à personne avant de sauter à l'eau, raconte son frère. Je me suis approché du bord et j'ai dit « Il s'en va où, Alexandre? » Je ne comprenais pas parce que les personnes sur les matelas ne faisaient pas de signe à l'aide, sauf qu'on voyait qu'elles s'éloignaient du bord. Au fil de son trajet, Alexandre Anctil arrive à un haut fond de sable où il enlève précipitamment son T-shirt aquatique et le jette dans l'eau. Je me suis dit « Oh là là, c'est plus dur que ça en a l'air », raconte Daniel. On avait nagé jusque-là la veille, moi et lui, mais c'était beaucoup plus calme. Je me suis dit « Je vais aller l'aider ». Il y avait en effet la gardienne à aller chercher aussi. Les deux frères se sont croisés sur le haut fond. Alexandre m'a dit de ne pas y aller, que c'était trop fatigant. Mais justement, Alexandre était fatigué. Donc, je suis allé chercher la dame. Daniel Anctil réalise que la gardienne, tout comme les fillettes d'ailleurs, a une expression totalement figée. Alexandre ne pouvait ramener tout le monde à lui tout seul, dit-il. Un troisième homme est venu à la nage offrir son aide. C'est un gars qui avait déjà fait du triathlon, a su Daniel Anctil par la suite. Quand les deux frères arrivent enfin sur la rive avec les enfants et la femme saine et sauve, on aurait dit une scène de film. Les gens se sont mis à applaudir, raconte Daniel. Il y a des gens qui nous ont offert de la bière et de l'eau, ajoute Alexandre, un peu amusé. Daniel Anctil assure qu'il n'a pas eu peur pour la sécurité de son frère en le voyant partir à la nage. Je sais que sa blonde a eu peur, elle s'est mise à dire des choses que je ne l'avais jamais entendu dire.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Venna y no hay quien la contenga. Animal que viene de tu fechoría, es normal que quiera buscar tu comida, pero no te olvides que aquí somos muchos caminando por el mundo buscando serrucho. Protejamos a los niños, para la salud, para todo, no me muestres tu colmillo. Desarrollo. Siéntate aquí y arreglemos el meollo. Desarrollo, sí. Queremos pollo.
Gypsy Cumbia Orchestra nous chantait Alta Cima.
Actualité culturelle, Zombie Boy s'éteint à 32 ans. Le mannequin montréalais Zombie Boy est mort, a confirmé son agence en milieu de soirée hier. La cause de sa mort n'a pas été confirmée, mais des médias ont rapporté que Zombie Boy se serait enlevé la vie. Zombie Boy, de son vrai nom Rick Genet, 32 ans, avait le visage et le corps entièrement tatoués. C'est de cette façon qu'il s'était fait connaître à l'échelle mondiale en tournant en 2011 dans le clip « Born This Way » de Lady Gaga. Cette dernière a réagi hier sur les médias sociaux en écrivant « Le suicide de l'ami Rick Genet, Zombie Boy, est au-delà de la catastrophe. Nous devons redoubler d'efforts pour changer la culture, mettre la santé mentale au premier plan. » Et effacer la stigmatisation dont nous ne pouvons pas parler. Si vous souffrez, Appelez un ami ou une famille aujourd'hui. Nous devons nous sauver l'un l'autre. Zombie Boy a également défilé pour Thierry Mugler et posé pour les magazines JQ, Vanity Fair et Vogue Homme. Né le 7 août 1985 à Châteauguay en Montérégie, il a vécu dans les rues de Montréal une bonne partie de sa vie. L'agence de mannequins qui l'embauchait a également réagi. Toute la famille Dolce Do est sous le choc et peinée par cette tragédie. Zombie Boy, Rico, était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le rencontrer et le connaître. Icône de la scène artistique et du monde de la mode, cet innovateur à contre-courant de la culture populaire a su charmer tous les cœurs. Nous avons reçu la regrettable nouvelle en début d'après-midi et des membres de l'équipe se sont dépêchés pour soutenir sa famille et ses proches dans ce moment sombre et difficile. Alors, je vais vous lire la critique d'un film dont tout le monde parle, Eighth Grade, par Beau Burnham. C'est Marc-André Lucier qui en parle dans la presse d'aujourd'hui. On ne compte plus les films sur l'adolescence ayant jalonné l'histoire du cinéma. Ce thème, qu'on pourrait croire usé à la corde, se renouvelle pourtant de génération en génération, au gré de l'époque dans laquelle cette période charnière de l'existence est vécue. Dans le cas d'Eighth Grade, un film sensible et délicat, on y décrit avec justesse le parcours d'une fille de 13 ans, Kayla, Elsie Fisher, formidable, qui tente de se faire modestement une place à l'ère d'Instagram et des influenceurs. Ce premier long-métrage convaincant de l'humoriste Bo Burnham, ancien YouTuber aujourd'hui âgé de 27 ans, commence d'ailleurs avec une scène résumant tout le malaise existentiel d'une jeune fille nouvellement adolescente. Kayla enregistre en effet une capsule destinée à sa chaîne YouTube que personne ne fréquente, dans laquelle elle donne des conseils aux gens de sa génération pour mieux s'assumer et se bâtir une confiance. Avec un sourire timide, elle incite aussi les éventuels spectateurs de ses capsules à ne pas oublier de cliquer « j'aime » comme une sorte de monnaie d'échange précieuse servant à valider son existence sur les réseaux sociaux. Évidemment, rien de tout ce qu'elle raconte devant sa caméra ne survient dans sa vraie vie. Kayla obtient même, honte suprême, le prix de la fille la plus tranquille de sa classe. Elle a du mal à se faire des amis, en pince pour un garçon avec qui elle échangera maladroitement, se rend à une soirée où personne ne lui parle, tente d'établir un dialogue avec les filles les plus populaires qui, en retour, lui jettent à peine un regard, les yeux fixés en permanence sur leur téléphone. Kayla est victime de l'arme la plus cruelle qui soit, l'indifférence. Bien que sa mère soit absente du décor, l'adolescente a toutefois la chance de compter sur un père immensément compréhensif, Josh Hamilton, candidat notoire au titre de meilleur papa de l'année. Moins troublant que Welcome to the Dollhouse, le film que Todd Solondz a réalisé en 1995, matiné aussi un peu de l'esprit de Mean Girls, sorti en 2004, Eighth Grade illustre néanmoins avec brio à quel point les réseaux sociaux et tout ce qui s'y rattache occupe un espace fondamental dans la vie de ceux qui sont nés au moment même où ces réseaux furent créés et qui ont ensuite grandi avec eux. Dans ce portrait intime qui ne s'éloigne jamais du point de vue de la protagoniste, Burnham est parvenu à évoquer parfaitement la dichotomie entre la réalité d'un être et la représentation qu'il se fait de lui-même aux yeux des autres. Surtout, il a su faire écho aux préoccupations et questionnements habituels de la jeune adolescence. Il n'y a pas si longtemps, cette étape se vivait autrement, sans la pression d'une vie sociale en ligne permanente. Ce film sincère et tendre indique cependant que quoi qu'il advienne et peu importe le contexte, la nature de ce qu'on appelle l'âge ingrat est éphémère. C'est toujours ça de prix. Pour l'instant, Eighth Grade est à l'affiche en version originale anglaise seulement. Souhaitons l'arrivée bientôt d'une version accessible au public francophone. Dans Le Devoir, voilà ce qu'on pourrait appeler un gemme de taille. Le Comédie A Fest Québec annonçait hier un partenariat avec Facebook qui retransmettra en direct le 11 août à 22h30 son cabaret Bang Bang Rodeo animé par le duo de fausses rockstars décadentes sexe illégal. L'événement, qui se déroulera du 8 au 19 août, emploie dans son communiqué la rhétorique d'un « far web » où tout est permis et promet un spectacle 100% non censuré, offrant une liberté dans les textes que la télévision traditionnelle ne permet pas. La co-animatrice du balado « Trois bières », Gabrielle Caron, accueillera quant à elle chaque jour dès 17h les têtes d'affiche du Festival Comique au studio interactif Facebook, installé au cœur de son site extérieur. La première québécoise de La disparition des Lucioles, troisième long métrage de Sébastien Pilote, qui a réalisé entre autres Le démantèlement, aura lieu à Québec. L'honneur revient au Festival de cinéma de la ville de Québec, FCVQ, qui annonçait jeudi l'avoir choisi comme film d'ouverture de sa 8e édition. Lancé cet été au Festival de Karlovy-Vary en République tchèque, La disparition des Lucioles est déjà assurée d'un beau parcours puisqu'il sera aussi, pour sa première canadienne, du Festival international du film de Toronto, le TIFF, les premiers rôles sont tenus par Karel Tremblay et Pierre-Luc Briand. Le festival se mettra en branle le 13 septembre. Dans Le Devoir, on fait des suggestions sorties. Discuter d'agriculture urbaine dans le calme d'un parc, ce sera possible pour les trois prochains dimanches avec le retour des matinées bergères de Biquette à Montréal. Le collectif qui promène des moutons depuis 3 ans dans les parcs de Rosemont-la-Petite-Patrie. Dimanche, la première causerie s'intéressera à la faune et à la flore de Montréal sous la forme d'un jeu questionnaire interactif familial. Et après, direction la bergerie où broutent les bêtes jusqu'au 15 août, après quoi elles feront transhumance jusqu'au parc Maisonneuve non loin. C'est dimanche de 11h à midi au parc du Pélican. Entrée libre et vous pouvez avoir toute la programmation complète sur facebook.com/biquette à Montréal. Comme le mois de l'archéologie démarre toujours au milieu des vacances d'été, c'est l'occasion de découvrir l'histoire d'une région autre que la vôtre, là où vous avez piqué votre tente ou roulé votre Westphalia, finalement. Idée 1 en région, des fouilles de la taille de pierre et une enquête dans le jardin des mémoires au parc national du lac Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent. Idée 2 en ville, le circuit urbain archéologique autour des lieux emblématiques de l'époque du Parlement du Canada uni, derrière le musée Pointe-à-Calière couvrant la période 1844-1849. Le mois de l'archéo, c'est jusqu'au 31 août, partout au Québec. Pour son traditionnel marché d'artisans où tout sera gossé de nos mains, des mains de créateurs montréalais, précisons, le village au pied du courant organise aussi 2 ateliers pour ceux qui voudraient justement se faire la main, soit au tricot, soit à la gravure sur bois. Et pour les nostalgiques du feu, petit restaurant de cuisine chinoise Trilogie, sachez qu'il revient à la vie sous forme de pop-up de bouffe sichuanaise, c'est dimanche de 15h à 20h. L'entrée est libre, infos et liste des artisans, facebook.com/pieds-du-courant. Et si vos vacances vous mènent ou vous mèneront jusqu'à Baie-Saint-Paul, sachez que le Symposium international d'art contemporain y bat son plein jusqu'à la fin du mois sur le thème « L'art et la politique ». L'événement reçoit dimanche la cinéaste et romancière Anaïs Barbeau-Lavalette pour une conférence intitulée « Libre ensemble ». Et plus tard, en août, 2 autres créatrices engagées, la cinéaste Kim Obomsawin, qui présentera son film Obomsawin, qui présentera son film Ce silence qui tue, et Natacha Canapé-Fontaine, qui présentera Bleuet et Abricot, spectacle à partir de son recueil de poésie. C'est jusqu'au 26 août à l'école Thomas Tremblay, rue Ambroise, Fafard. Pour plus d'informations, symposium BSP. pour bsaintpaul.com.
Run, 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 what I do, c'est le temps des vacances. Run, 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 what I do, c'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Nous avons gradué, c'est le temps des vacances. La saison pour semer. Allons sur le sable chaud, tout près de la mer. Près de toi, je suis si bien, sans toi, je ne peux vraiment rien. C'est le temps des vacances. Partons tous les deux. Que j'ai eu tort, donne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours.
La vie,
on s'est aimé. Ah, je t'ai fait pleurer. Et puis tu m'as quitté. Autrefois, mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison des mûres. C'est le temps des romances, comme l'été dernier. Reprenons très vite ensemble. Redonne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. C'est le temps des vacances. Run, down, down, what I do. C'est le temps des vacances. Run, down, down, what I do. C'est le temps des vacances.
Pierre Lalonde, le temps des vacances. Dédicace pour Hélène Denis.
Merci Maurice, c'est donc gentil, je ne m'y attendais pas du tout, une belle surprise. Et pendant mes vacances, ce sera François Brodeur qui sera là. Et je vous invite à continuer à écouter le quotidien des quotidiens. Il nous reste une bonne dizaine de minutes à passer ensemble et comme c'est le temps des vacances et des sorties, c'est le week-end aussi pour ceux et celles qui sont en week-end ou en vacances. Je poursuis avec d'autres suggestions, cette fois tirées du Journal de Montréal, tantôt c'était dans Le Devoir. Les films de votre vie jusqu'au 3 septembre, le Théâtre Outremont, Raymond Cloutier et Roland Smith nous invitent à voir les meilleurs films présentés dans cette salle mythique. Les personnalités publiques Roch Demers, Gilbert Sicotte, Pierre-Carl Péladeau, Denise Bombardier, Fabienne Cola, Franco Nuovo, Denis Bouchard, Georges Privet, qui est un critique de cinéma, Mouffe, Jean-Claude Laure et d'autres, nous proposent leurs préférences. 2 à 3 représentations auront lieu tous les jours du mois. Hier, c'était la grande première avec Femmes sous influence, un film qui a été présenté par... la révélation cinématographique de cette année, Théodore Pellerin. Alors, des tarifs, 12,50 $ ou 6 films pour 60 $, théâtreoutremont.ca. Festival Orientalis en fin de semaine jusqu'à dimanche au Quai de l'Horloge dans le Vieux-Port de Montréal. On pourra découvrir les arts, musique, danse, peinture, calligraphie, etc. du Maghreb, de la Chine, de l'Espagne, de la Turquie, de la Syrie, du Liban, du Cambodge, de l'Inde, du Japon et c'est gratuit. Festival Orientalis, lys.com. Autre suggestion, pendant le mois d'août, Art Souterrain propose une série d'activités gratuites. Dimanche, 13 h, au départ du 1415 rue Peel, vous serez guidé autour du quadrilatère des rues de Bleury, Sainte-Catherine, Mackay et Sherbrooke, où ont été installées des œuvres d'art dans les vitrines des magasins vacants. Il y aura aussi une visite nocturne le 16 août et une autre de jour le 19 août. On peut réserver auprès de idupont@artsouterrain.com, idupont@artsouterrain.com. Il nous reste une petite semaine pour vivre une expérience immersive inspirée de la navigation spatiale et des changements climatiques. L'exposition prend fin le 12 août. Elle est réservée aux plus de 13 ans. Comme il s'agit de réalité virtuelle, on s'abstient si on est enceinte ou si on a un cœur fragile. ces particules d'existence et ça se passe au Centre Phi et ça coûte 25$. Les ZH Festival dans Hochelaga. Jusqu'au 11 août, le Festival radioactif de l'émergence artistique présente divers spectacles. Vendredi, aujourd'hui, 20h, Qui veut la peau d'Antigone au Théâtre Espace Libre, Charbonneau et Amato, plus Simon Trottier et Joël Vaudreuil à la Maison de la culture Maisonneuve, aussi à 20h. Samedi, Gender F Astérix CKER à la Maison de la culture Maisonneuve à 18h. Et salaire synthétique, bonjour, aïe, à 20h au Théâtre Espace Libre, tarif 17,50$. Pour plus de détails, zhfestival.com. Et je termine avec la Coupe Rogers. Jusqu'au 12 août, on pourra voir les meilleures joueuses de tennis à l'œuvre au stade IGA du Parc Jarry. Vendredi, c'est maintenant, c'est gratuit, ça a commencé à 11h, premier arrivé, premier entré. Consultez le site pour les FAQ et les billets en vente, cooprogers.com. Une nouvelle toute récente, Juliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Pierre Parc Extension, a été suspendue du caucus de Projet Montréal ce matin par Valérie Plante après de nouvelles plaintes sur son comportement au travail. La mairesse de Montréal a aussi demandé au contrôleur général de la ville de déclencher une enquête sur le climat à la mairie d'arrondissement. Elle refuse toutefois de dévoiler publiquement la nature des problèmes qui minent ce climat. « Je me vois dans l'obligation de poser un geste difficile mais responsable », a affirmé Mme Plante en conférence de presse à l'Hôtel de Ville. Mme Plante demande à Mme Fumagalli de ne pas entrer en contact avec les fonctionnaires de l'arrondissement le temps de l'enquête. Selon elle, des employés se sont très récemment plaints que Mme Fumagalli ne respectait pas l'entente signée à l'issue d'un processus de médiation volontaire au printemps dernier. Dans la foulée, la mairesse d'arrondissement s'était aussi excusée. « Je vais prendre l'occasion pour présenter mes excuses à toute personne qui a été blessée par mes propos », avait affirmé Juliana Fumagalli. « Je souhaite réitérer ma confiance envers la fonction publique et à tout le monde qui travaille à l'arrondissement. » Depuis l'élection en novembre dernier, les deux premiers chefs de cabinet de Mme Fumagalli ont quitté leurs fonctions rapidement, de même qu'un attaché politique. Trouver l'intrus, ces cinq singles qu'on appelait à l'époque des 45 tours ont rayé bon nombre d'aiguilles dans les jukebox de la Terre. Néanmoins, l'un des cinq vinyles n'a pas sa place dans cette discographie. Appuyez sur le disque fautif, alors sur lequel vous appuieriez. She Loves You, All You Need Is Love, Love Me Do, Love Me Tender ou And I Love Her. L'intrus est...
And I Love Her.
Love Me Tender. Ah. Parce que les autres, ce sont des chansons
des
de Beatles. Love Me Tender est une chanson de...
Elvis.
Oui.
Moi, je pensais que c'est une question d'année.
D'accord.
Thank you.
C'est entièrement nu qu'apparaissent les modèles sur la campagne automne 2018 de la marque italienne qui renoue avec son audace des années 80-90 grâce au photographe Oliviero Toscani. Benetton dévoile une campagne publicitaire bien originale pour présenter sa collection automne 2018. À défaut de présenter les vêtements et accessoires qui composeront la nouvelle ligne, les modèles choisis posent entièrement dévêtus et enlacés. Contre la guerre civile, contre la mafia, contre la violence urbaine identitaire, contre les conflits ethniques féroces, contre les guerres de religion et le choc des civilisations, contre le terrorisme et contre toute forme de racisme renaissant, voici le texte qui accompagne cette campagne signée par le photographe Oliviero Toscani. Ce dernier, revenu chez Benetton après plusieurs années d'absence, est à l'origine des campagnes publicitaires controversées, devenue la marque de fabrique de la griffe italienne dans les années 80 et 90. Six ans après sa séparation, le groupe ABBA est de retour au palmarès, des palmarès, au sommet des palmarès grâce au film Mamma Mia, Here We Go Again. Et ce n'est pas tout, le groupe suédois lancera deux nouveaux titres d'ici la fin de l'année et travaille sur une tournée mondiale en hologramme pour 2019. Et oui, c'est le temps des vacances, comme le chantait tantôt Pierre Lalonde. Encore merci, Maurice, d'avoir pensé à faire jouer cette chanson en pensant à moi. Et moi, je ne vous oublierai pas, même si je quitte Canal M pour quelques semaines. On se retrouve le lundi 27 août, c'est bien cela. Je voulais pas être perdue dans mes dates, là, mais ce sera vers la fin du mois d'août, ça c'est sûr. J'espère bien vous retrouver en pleine forme. Et merci d'être à l'écoute toujours de l'émission Le quotidien des quotidiens. Je vous rappelle que c'est François Brodeur qui sera au micro de cette émission. Ici Hélène Denis, merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. À bientôt!